Bonjour mesdames, messieurs. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du Monde aujourd'hui présentée par Nanit Talani. Tout de suite, le sommaire. Au Kenya, Rigathi Gachagua destitué, le chef de l'État William Ruto à la recherche d'un nouveau vice-président. Les experts de l'ONU dénoncent des tactiques de famine utilisées par les forces armées au Soudan. Attaque suicide à Mogadiscio en Somalie, au moins 7 morts dont des civils. Israël annonce la mort de Yahya Sinwar, chef du Hamas. Dans la partie magazine, nous reviendrons sur la crise qui secoue le Congo-Brazzaville, dont l'économie est marquée par des retards de salaire et des grèves dans certaines institutions.
Le Congo n'arrive plus à faire face à ces charges incompressibles, notamment les salaires, la dette, les bourses, les retraites, les pensions de retraite, le fonctionnement des services sociaux, etc.
L'ex-ministre Clément Mirassa. En économie, Abidjan accorde 4 nouveaux permis de recherche minérale pour stimuler la production des mines. Et puis en sport, l'Académie Africa Foot du Mali signe un partenariat de 5 ans avec le Barcelone. Ce sera dans notre section sportive, mais d'abord le journal. Le vice-président kényan Rigathi Gachagua a été destitué hier à l'issue d'une procédure inédite prévue par la Constitution de 2010. Le président kényan William Ruto doit nommer un nouveau vice-président suite à cette destitution. Parmi les candidats potentiels, Abraham Kithure Kindiki, 50 ans, émerge comme un choix notable, notamment pour son rôle de défenseur de William Ruto à la CPI lors des poursuites liées aux violences post-électorales de 2007-2008. Actuellement ministre de l'Intérieur, Kindiki a été critiqué pour sa défense des forces de l'ordre durant les manifestations anti-gouvernementales qui ont entraîné la mort d'au moins 60 personnes. Il a également dû clarifier l'origine de sa fortune de 5,4 millions de dollars qu'il attribue à son cabinet d'avocats et à d'autres petites entreprises. Les forces armées soudanaises et leurs adversaires des forces de soutien rapide utilisent des tactiques pour affamer 25 millions de civils au Soudan. C'est ce qu'ont indiqué hier des experts de l'ONU dans un communiqué. Rosine Munezero nous en dit plus.
Jamais dans l'histoire moderne, autant de personnes n'ont été confrontées à la faim et à la famine qu'au Soudan aujourd'hui, ont déclaré ces experts qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme, mais ne s'expriment pas au nom de l'ONU. Un pourcentage stupéfiant de 97% des personnes déplacées au Soudan, ainsi que des civils restés chez eux, sont confrontés à des niveaux sévères de faim, soulignent ces experts. La famine a été déclarée en juillet dans le camp de Zamzam, près de la ville d'El Fasher, au Darfour. Les experts soulignent d'ailleurs le sort des 500 000 personnes qui se sont assemblées dans ce camp pour tenter d'échapper au combat et sont confrontées aux pires conditions de vie. Pour que la famine au Soudan cesse, il faut que les FSR et les FAS cessent immédiatement d'entraver l'acheminement de l'aide, insistent ces experts, qui réclament aussi un arrêt des attaques contre les populations locales et demandent au gouvernement étranger d'arrêter de soutenir financièrement et militairement les deux factions. Cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde, selon l'ONU.
En Centrafrique, le fleuve Ubangi a atteint un niveau critique, suscitant des craintes d'inondations dévastatrices d'après un bulletin gouvernemental. La saison des pluies risque plutôt d'aggraver la situation avec des débordements possibles du fleuve qui menacent les habitations et installations environnementales. Les autorités conseillent aux riverains d'évacuer pour leur sécurité et incite les organisations locales et humanitaires à prendre des mesures préventives. Le gouvernement ivoirien a décidé de dissoudre toutes les associations syndicales estudiantines suite à l'assassinat de 2 hommes par des individus liés à un puissant syndicat étudiant. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil national de sécurité présidée par Alassane Ouattara. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FETI, est particulièrement visée, accusée de semer la terreur sur les campus d'Abidjan. 17 étudiants, dont le leader de la FESI, Sié Kambou, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête. La FESI est également critiquée pour ses pratiques de location illégale de chambres universitaires. En Somalie, au moins 7 personnes, dont des civils, ont été tuées hier dans l'attaque suicide d'un homme qui s'est fait exploser près d'une école de police à Mogadiscio, selon la police et les témoins. Yacouba Ouedraogo.
Les djihadistes du groupe militant Al-Shabaab, liés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attentat dans un communiqué. Des officiers de police ont indiqué que le kamikaze s'était approché d'un groupe qui prenait le thé à l'ombre d'arbres avant de faire exploser l'engin qu'il portait sur lui. Les services de secours sont intervenus. C'est horrible, l'explosion s'est produite alors que des gens savouraient tranquillement leur thé, a déclaré Mohamed Salah, un témoin. Un poète somalien de renom figurerait parmi les morts selon des témoins. En août, au moins 37 personnes ont été tuées dans une attaque d'Al-Shabaab sur une plage fréquentée de Mogadiscio qui a été suivie de manifestations contre les djihadistes. La Shabab combat depuis plus de 17 ans pour renverser le fragile gouvernement central de Mogadiscio.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël salue la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Dans une déclaration hier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié ce décès d'étape importante, mais a averti qu'elle ne signifiait pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas n'a pas encore confirmé la mort de son chef. Davantage avec Alexandrine Holognon.
Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi qu'Israël avait réglé ses comptes avec la personne qui a perpétré le pire massacre de l'histoire de son peuple depuis l'Holocauste. Netanyahou a déclaré que l'assassinat du chef du Hamas, Yahya Sinwar, constituait un moment important dans la guerre visant à ramener les otages détenus à Gaza. Il a également déclaré que toute personne qui remettrait des armes et aiderait au retour des otages serait autorisée à quitter Gaza en toute sécurité. Les forces israéliennes à Gaza ont tué le principal dirigeant du Hamas, Yahya Sinwar, l'un des principaux architectes de l'attaque de l'année dernière contre Israël qui a déclenché la guerre, a déclaré l'armée jeudi. Les troupes semblaient l'avoir croisé au cours d'une bataille avant de découvrir après coup qu'un corps dans les décombres était l'homme qu'Israël traquait depuis plus d'un an. Sinwar était en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a un peu plus d'un an et son assassinat porte un coup sévère au groupe militant.
Les dirigeants à travers le monde pressent le Hamas de libérer les otages après la mort de Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël. Les familles des otages israéliens ont déclaré que si l'assassinat de Sinwar constituait une avancée significative, celle-ci ne serait pas complète tant que les otages se trouveraient encore à Gaza. Dili Diko pour les précisions.
Il y a maintenant la possibilité d'un jour d'après à Gaza sans le Hamas au pouvoir et d'un règlement politique qui offre un meilleur avenir aux Israéliens et aux Palestiniens, a déclaré le président américain Joe Biden, qui a salué la mort de Sinwar comme un bon jour pour le monde. La vice-présidente américaine Kamala Harris a salué l'occasion de mettre enfin un terme à la guerre à Gaza. Le président français Emmanuel Macron a réclamé la libération de tous les otages. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé que l'élimination de Yahya Sinwar était à la fois un coup fatal porté au Hamas et une page qui se tourne et qui doit se tourner dans la guerre de Gaza. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a qualifié Sinwar de meurtrier cruel et de terroriste tout en exhortant le Hamas à libérer immédiatement tous les otages et à déposer les armes. Les militants du Hamas ont pris 251 otages lors de l'attaque d'octobre 2023. Les autorités israéliennes affirment qu'il en reste 97 à Gaza, dont 34 seraient morts.
C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, bienvenue dans notre rubrique économique avec Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a accordé par décret 4 nouveaux permis de recherche minière, 3 pour l'or et 1 pour le lithium. Ces dernières années, la production ivoirienne d'or a connu une forte croissance, passant de 38,5 tonnes en 2020 à 51 tonnes l'année dernière, précise Ecofin. L'octroi de permis de recherche peut favoriser de nouveaux investissements dans l'exploration qui, à terme, pourront soutenir la croissance de la production. Au Sénégal, l'institution de microfinance islamique Taysir Finance SA a conclu un accord de prêt de 5 milliards de francs CFA avec Fonsis, le fonds souverain d'investissement stratégique. Ce financement doit permettre d'augmenter l'offre de crédit aux PME locales. La coopération est plus que jamais nécessaire afin de faire face aux grands défis mondiaux, a déclaré la directrice générale du Fonds monétaire international à l'occasion de son traditionnel discours en amont des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui débuteront mardi à Washington. Elle a rappelé que la croissance mondiale à moyen terme devrait revenir non loin de ses niveaux d'avant-pandémie, mais que ce n'est pas suffisant face aux défis à relever, tant sur l'environnement que pour le développement humain.
Maintenant, intéressons-nous aux dernières nouvelles sportives avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Arts martiaux mixtes pour commencer avec le retour attendu de Francis Ngannou dans la discipline.
Oui, le Camerounais combat demain samedi contre le Brésilien Renan Ferreira à Riyad en Arabie Saoudite. Sa première sortie en MMA depuis quasiment 3 ans, Francis Ngannou se dit décidé à prouver ce dont il est capable et espère se découvrir lui-même. Le dernier combat de MMA de Francis Ngannou remonte à janvier 2022. Entre-temps, il s'est offert 2 combats de boxe anglaise, son rêve d'adolescent, contre les superstars Tyson Fury et Anthony Joshua. Les 2 affrontements qui se sont aussi disputés à Riyad se sont soldés par des défaites. Cette fois-ci, en MMA, Ngannou affronte le Brésilien Renan Ferreira pour tenter de décrocher la ceinture Super Fight des poids lourds du PLF. Ce combat est disputé justement sous la bannière du PLF, ligue émergente dans le monde du MMA et non de l'UFC, l'organisation de référence qui l'a quitté avec fracas l'an dernier.
L'Académie Africa Foot du Mali a signé un accord de partenariat avec le FC Barcelone.
Pour le président de l'Académie Africa Foot, Bahama Sidibé, cet accord de 5 ans permettra au centre de formation malien d'avoir une visibilité et de prospérer. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous en dit plus.
Bahama Sidibé, président de l'Académie Africa Foot, s'estime heureux. Il a indiqué que c'est le fruit du bon travail au niveau de la petite catégorie au Mali.
Aujourd'hui, le FC Barcelone est une référence mondiale. Donc, associer notre nom au FC Barcelone, je dirais que c'est un rêve qui devient une réalité. Pourquoi aussi? Parce que tout ce que nos petites catégories font, on voit que le Mali régorge de talents. Pour qu'ils puissent aller monnayer leurs talents ailleurs, et surtout sur le continent européen, le FC Barcelone nous donne aujourd'hui l'opportunité. C'est quelque chose qui nous rend fiers. C'est pas seulement Africa Foot. Pour moi, cette histoire, c'est le Mali.
Le président de l'Académie Africa Foot nous dit comment ce partenariat avec le FC Barça est arrivé.
Aujourd'hui, au sein du FC Barcelone, le recruteur en chef du Barça au niveau de l'Afrique, il est malien et logiquement, il est africain. Dès qu'il a été nommé à son poste, il s'est immédiatement tourné vers l'Afrique. Il en a parlé à son président, que je salue ici, parce qu'il a suivi son employé pour qu'il vienne en Afrique pour solliciter les académies.
Aujourd'hui, le Barça se dit que l'avenir du football se trouve en Afrique. Donc, ils veulent associer leur image à des académies en Afrique. C'est pour cela qu'ils ont sollicité une académie en Côte d'Ivoire, une académie au Sénégal. Et au Mali, nous, on a eu la chance d'être l'académie choisie pour être partenaire.
À propos de l'essentiel des termes de l'accord, il y a par exemple la formation. Bahama Sidibé, président de l'Académie Africa Foot.
La formation de nos entraîneurs, formation de nos joueurs et même nous les dirigeants. Chaque année. La deuxième chose aussi, c'est que le Barça a la priorité sur nos 2 meilleurs éléments.
Déjà, nous signale Bahama Sidibé, il y a un accord pour un des joueurs d'Africa Foot promu pour le Barça. Mais il faudra attendre d'abord sa majorité pour diffuser les informations lui concernant. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Restez avec nous pour ne rien manquer de nos dossiers du jour. La situation économique du Congo-Brazzaville, en crise depuis plus d'une décennie, présente un tableau alarmant. Les retards de paiement des salaires et les grèves au sein d'institutions essentielles telles que l'Université Marengwabi sont autant de signes d'une économie au bord de la faillite. L'ancien ministre de l'économie, Clément Mirassa, attribue cette situation à une gouvernance défaillante et à une dépendance excessive aux revenus pétroliers.
En juillet 2019, on a eu un programme avec le Fonds monétaire pour lequel les gouvernants n'ont pas pu respecter les engagements. Ils ont signé un nouveau programme en janvier 2022 qui se termine là et ils pensaient sortir le Congo de la crise, mais ça ne va pas du tout. La situation, c'est une situation pratiquement de cessation de paiement. Le Congo n'arrive plus à faire face à ses charges incompressibles, notamment les salaires, la dette, les bourses, les retraites, les pensions de retraite, le fonctionnement des services sociaux, etc. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de structures, des retards des salaires. Pour vous donner une indication, à la présence de la République du Congo, on compte actuellement 6 mois d'arriéré des salaires. Le Parlement, c'est à peu près la même chose. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est la même chose. Donc, et il y a la grogne partout, au niveau du chemin de fer Congo-Océan, au niveau de l'université Marie-Ngouabi, au niveau du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, au niveau de l'hôpital Assisé de Pointe-Noire, au niveau de l'hôpital de Luandilé, etc. Et cette situation, on a eu à l'analyser très souvent. Elle est due à une très grande mauvaise gouvernance. Elle est due à l'incapacité de réaliser la diversification économique. Elle est due au fait que l'économie est trop fortement dépendante du pétrole. Elle est due au fait que, bon, aujourd'hui, on a un chômage massif, on a un certain nombre de choses et le gouvernement n'arrive pas à apporter les solutions. Et vous avez le problème que vous connaissez, c'est le problème de la dette qui est insoutenable. Il y a une situation de surendettement et actuellement, la dette du Congo représente pratiquement 99% du produit intérieur brut, alors que la norme communautaire au niveau de la CEMAC est de 70%. Donc quand je décris ce tableau un peu sombre pour vous dire que l'université Marie-Ngouabi vit des grèves fréquentes, elle est actuellement en grève, la pénurie de carburant, donc ça pose des problèmes de transport, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, d'électricité, donc le Congo vit vraiment des moments extrêmement difficiles en ce moment.
Vous êtes un ancien ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Il y a quand même une voie de sortie possible.
Je dénonce aussi le fait que le gouvernement, les gouvernants actuels, ne sont pas capables de lutter contre la corruption parce qu'il est reconnu que l'économie congolaise est minée par la corruption, elle est minée par les détournements des deniers publics, elle est minée par la fraude, etc. Les cas sont extrêmement nombreux. Et je pense que l'une des mesures que nous devrions faire, c'est la lutte, une lutte âpre et farouche contre la corruption, comme l'Arabie Saoudite l'a fait, etc. Ce qui permettrait de récupérer des sommes colossales qui ont été dilapidées du trésor public, qui seront réinjectées dans le circuit économique.
L'ancien ministre congolais de l'économie, Clément Mirassa, répondait aux questions d'Eric Manirakiza.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
3 ans après le lancement de la réforme de l'éducation en Mauritanie, l'école républicaine, instaurée sous l'impulsion du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, reste un sujet de débat intense. Alors que certaines voix saluent les progrès réalisés, d'autres dénoncent encore des failles persistante dans sa mise en œuvre. À Nouakchott, Mohamed Diop.
En 2022, la Mauritanie lance une réforme éducative instaurant l'école républicaine défendue à l'époque par Mokhtar Ould Houdahi, alors ministre de l'Éducation nationale.
Conformément aux directives du président Ghazouani, la réforme de l'éducation visant à instaurer l'école républicaine est une priorité urgente. Elle prévoit de transformer progressivement l'enseignement primaire en école publique, garantissant un accès égal à tous les enfants du pays.
Cependant, la mise en œuvre de la réforme qui élimine progressivement l'enseignement primaire dans les écoles privées inquiète des parents d'élèves réunis ici en cité. Ils estiment aussi que l'école républicaine ne réunit pas toutes les conditions.
Nous sommes là, le comité des parents d'élèves, donc pour revendiquer l'intégration des classes de première année AF, deuxième année AF et troisième année AF dans les écoles privées. Nous ne sommes pas contre l'école républicaine, mais cette école n'est pas encore prête à accueillir nos enfants. Côté infrastructure et aussi l'éducation qui n'est pas de qualité. Nous avons le droit de choisir l'éducation qu'il faut pour nos enfants.
J'ai essayé d'inscrire ma fille à l'école publique. J'ai trouvé une classe de 80 élèves où certains sont même assis en bas. Comment on peut laisser nos enfants éduquer dans ces conditions? Je suis d'accord avec l'école républicaine, mais elle n'est pas prête. L'État n'est pas prêt à donner assez d'enseignants, à mettre les moyens nécessaires dans l'éducation. Je suis prêt pour payer pour l'éducation de mes enfants. Laissez-moi payer, c'est mon droit.
Côté autorité, Salik Guido, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, parle de réformes cruciales pour l'avenir du pays.
L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société mauritanienne. Composée de divers groupes, la société doit consolider les liens qui les unissent, permettant à chacun de mieux connaître la culture de l'autre et de parler la langue de l'autre. Par ailleurs, une ouverture accrue est un encouragement à l'apprentissage des langues étrangères, telles que le français et l'anglais, qui sont prévues en particulier dès le secondaire et jusqu'à l'université.
Un autre point de discorde est l'arabisation avec une première année primaire entièrement en arabe. Cependant, le gouvernement a homologué 7 écoles qui enseignent en français. Mais pour cette parente d'élèves, les privées homologuées restent coûteuses et insuffisantes.
Si nous laissons passer cela, nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Les écoles privées homologuées ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut payer jusqu'à 100 000 wigias par mois pour y inscrire son enfant.
Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
La saison des pluies fait des dégâts au Mali. Des inondations qui ont poussé le gouvernement à reporter la rentrée scolaire. L'école de Karama, située sur le fleuve Niger, Djoliba, est envahie par les eaux. Plus de 260 élèves fréquentent cette école. Ils sont pour la plupart issus des familles de pêcheurs qui sont sur les rives du fleuve à Bamako. Mokhtar Barry s'y est rendu. Voici son reportage.
Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Mali et Bamako en particulier font des dégâts. Parmi les personnes touchées, les riverains du fleuve Niger qui traversent la capitale malienne. L'école de Dialagoum, connue sous le nom de Karama, est située sur le fleuve Niger et a vu ses classes, jardins et sa petite ferme d'élevage emportées par les eaux. Bourray Kané est le directeur de l'école.
Alors la situation chez moi c'est catastrophique. Déjà la crue a débordé, il y a de l'eau partout. Moi j'ai perdu 4 salles de classe qui étaient construites en paillotte. Donc ces 4 salles de classe là, maintenant il ne me reste que 2 salles de classe en dur. Du coup ce qui empêche vraiment la reprise des cours.
À l'origine de cette école créée en 2017, permettre aux enfants des pêcheurs d'avoir accès à l'éducation et pouvoir prétendre à un bel avenir. Avenir qui semble compromis avec l'inondation de cet îlot, qui représente aujourd'hui tout un espoir. Bazoumana Koumaré est le chef de village des pêcheurs de Badalabougou.
Avant, nos enfants ne partaient pas à l'école. Il a fallu cette bonne volonté pour aider nos enfants à aller à l'école. Donc, si cette école est emportée par les eaux, c'est tous nos espoirs qui s'effondrent. C'est pourquoi nous demandons l'aide du gouvernement.
Marie Garnier, l'initiatrice de cette école, qui est devenue aujourd'hui une école publique, ne cesse de multiplier les initiatives pour sauver cet établissement scolaire. Elle a lancé une initiative pour demander de l'aide sur les réseaux sociaux.
Avec les précipitations, avec les pluies vraiment très abondantes, on voyait au fur et à mesure des jours qui passaient les bâtiments s'écrouler les uns après les autres. Et vraiment, c'est toute une grosse énergie qui est partie à l'eau, qui est tombée à l'eau, comme on peut dire. Mais l'idée, c'est de continuer, de chercher des fonds, de refonder cette école et de pouvoir continuer d'assurer la scolarité à ses enfants.
Le report de la rentrée scolaire par le gouvernement du Mali fut bien accueilli par l'administration de l'école, une administration qui a besoin d'aide pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 300 élèves qu'abrite cette école. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Après un report d'une semaine en raison de l'ouragan Milton aux États-Unis, le président Joe Biden a mis le cap sur l'Allemagne hier jeudi pour une visite d'État d'une journée ce vendredi. Au cœur des discussions à Berlin, l'Ukraine, au moment où les dirigeants américains et allemands sont confrontés à une pression croissante concernant leur soutien à ce pays en guerre, tous deux ayant récemment annoncé de nouveaux plans de sécurité. Le point avec Anita Powell, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Jacques Aristide.
Au programme en Allemagne, un tête-à-tête entre le président Joe Biden et Olaf Scholz, le chancelier allemand qui a d'ores et déjà souligné l'importance de ce voyage éclair et salué les relations entre Washington et Berlin. En haut de l'agenda, l'Ukraine. Le chef de l'exécutif américain a d'ailleurs fait part mercredi d'une nouvelle aide à Kiev de 425 millions de dollars. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.
Le président estime que ce déplacement chez l'un de nos alliés est très important car il s'agit d'un partenaire inébranlable, certainement pour ce qui est du partenariat soutenant la défense de l'Ukraine. Et le président voulait vraiment s'assurer d'aller en Allemagne pour remercier directement le chancelier Scholz.
Lors d'une rencontre avec Olaf Scholz la semaine dernière à Berlin, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté son plan de victoire, qui comprend un appel à rejoindre l'OTAN avant la fin de la guerre menée par la Russie contre son pays. Un plan dévoilé mercredi au Parlement ukrainien par le président Zelensky.
Ce plan est un pont pour organiser un sommet de paix productif qui mettra vraiment fin à la guerre. Ce plan n'est pas destiné à remplacer notre initiative de paix, mais plutôt à renforcer la position de l'Ukraine afin de nous rapprocher de la paix. Nous pouvons y parvenir grâce à la coopération de tous nos partenaires. Nous comptons également sur le soutien de l'Allemagne.
Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte, s'est contenté de dire mercredi que l'Ukraine en serait membre un jour. Cette guerre oblige les États-Unis et leurs alliés à travailler ensemble pour contrer un groupe d'adversaires ayant les yeux rivés sur le sort de l'Ukraine, d'après le général James Jones, conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président américain Barack Obama.
L'alliance entre l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Sud, si vous voulez l'appeler ainsi, est très dangereuse et nous ne pouvons pas prétendre qu'elle ne l'est pas. Et nous devons faire des choses comme renforcer l'OTAN, renforcer l'UE, renforcer les relations bilatérales et nous assurer que Vladimir Poutine ne l'emporte pas en Ukraine.
Le voyage du président américain pourrait être important pour l'avenir de l'Ukraine, indique via Zoom William Pomeranz, chercheur au Wilson Center.
Je pense que Biden pourrait utiliser son séjour en Allemagne pour réitérer l'importance du soutien à l'Ukraine.
L'Allemagne et les États-Unis ont tous deux connu des manifestations contre leur soutien à Israël dans la guerre qui a éclaté à Gaza il y a un an. Dans le même temps, les deux pays signalent une augmentation des incidents antisémites au cours de l'année écoulée. Joe Biden et Olaf Scholz, qui se disent de centre-gauche, sont confrontés aux critiques de groupes de droite à propos de l'aide de leur gouvernement à l'Ukraine et à Israël.
Et voilà, c'est tout pour Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce journal sur voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. Mille fois merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Talani. Fatou Alima Sikalala a assuré la mise en onde. Calvin Fowler était à la console. Au revoir et à très bientôt.